Je vais donc vous présenter maintenant le conférencier de ce soir. Donc François Godemans est né en 1949. Il est historien et sinologue. Il est directeur du Centre Asie à l'Institut français des relations internationales et il est professeur des universités à l'INALCO. Concernant son parcours, il est agrégé d'histoire, directeur d'histoire de la Chine contemporaine. De 1975 à 1978, il a été consultant à l'OCDE. De 1976 à 1980, il a été chercheur au CNRS. Et depuis 1980, il est enseignant donc à l'INALCO. Il est directeur du Centre de préparation aux échanges internationaux. Depuis 1992, il est professeur des universités. Et il est consultant permanent du ministère des Affaires étrangères. Il est spécialisé donc dans l'histoire de la Chine contemporaine et notamment de l'ère des réformes. François Godemans est aussi un observateur des relations internationales en Asie orientale. Il est l'auteur d'ouvrages et il a écrit de nombreux articles dans diverses revues françaises et étrangères. Je vous cite quelques ouvrages. Donc, La Renaissance de l'Asie, paru en 1993 aux éditions Odile Jacob. Dragon de feu, dragon de papier, l'Asie a-t-elle un avenir, chez Flammarion en 1998. Chine, États-Unis, entre méfiance et pragmatisme, à la documentation française en 2001. Et en 2002, la Chine et son Occident. Donc, François Godemans, je vous cède la parole pour une cinquantaine de minutes, après quoi nous aurons des questions-réponses avec le public. Merci.
Merci beaucoup pour cette présentation fort indulgente et surtout pour l'occasion de m'exprimer devant le public de l'Université de Tous les Savoirs et à travers lui, si j'ai bien compris, également en direction d'un public plus large. J'ai, pendant 15 ou 17 ans, assuré le cours de premier cycle, première année sur l'histoire contemporaine de la Chine à l'INALCO, et nous avions des rangées d'étudiants presque aussi fournies, mais pas tout à fait quand même, que cet amphi. Cela me ramène à un groupe large et curieux. Je vais essayer de synthétiser aujourd'hui pour vous quelques aspects de la réflexion qu'on peut avoir sur la puissance chinoise contemporaine. D'abord, en partant du titre de cette conférence, qui est une question, la Chine puissance revendicatrice ou puissance intégrée, point d'interrogation. L'interrogation porte à la fois sur la nature même de la puissance, sur l'existence, la portée, les limites de la puissance chinoise. Ensuite, elle porte sur l'usage que la Chine peut faire de cette puissance. Cette interrogation n'est pas nouvelle parce que pratiquement la définition même par la Chine dans le troisième tiers du XIXe siècle, à l'ère dite de la restauration de la notion de puissance, contenait déjà les mêmes ambivalences. C'est un philosophe chinois, Yan Fu, qui a le premier développé le slogan de la richesse et de la puissance, deux objectifs jumeaux, qui ont inspiré non seulement l'action réformatrice de la fin de la dynastie Qing, mais plus largement l'ère Meiji au Japon, le renouveau en Corée, qui ont pratiquement défini, si vous voulez, une grande tentative de réforme et de rattrapage industriel à travers l'Asie, à cette époque aujourd'hui historique. Or, quand Yan Fu parlait de richesse et de puissance, il l'opposait bien sûr à l'impuissance que la Chine avait éprouvée, impuissance en raison d'un déclin interne, dynastique, d'un plafonnement économique qu'il avait affecté, impuissance surtout et humiliation aux mains des Occidentaux avec les guerres de l'opium et les traités inégaux qui devaient mener ensuite à ce que les historiens chinois actuels appellent encore la semi-colonisation de la Chine. Cette expérience est pratiquement fondatrice de la matrice politique chinoise contemporaine au XXe siècle. Elle est en tous les cas fondatrice du nationalisme et légitime l'esprit de révolution qui aura soufflé plusieurs fois en Chine au XXe siècle. L'ambivalence sur l'usage de la puissance et plus fondamentalement encore sur la dualité d'objectifs, l'ambivalence donc entre l'objectif de la richesse et celui de la puissance, car en dépit du slogan de Yan Fu, il ne pouvait pas nécessairement être poursuivi de façon également prioritaire, il y avait forcément des choix, est une ambivalence historique. Les interrogations que nous avons aujourd'hui sur la portée du renouveau et de la croissance économique chinoise, sur la portée des moyens d'action chinois et sur le cadre des relations qui existent entre la Chine et le reste du monde, et d'abord entre la Chine et sa région, les interrogations que nous avons sur la nature de son nationalisme, les interrogations que nous avons sur la nature de son système de relations internationales, sur la question de savoir, par exemple, si ce système de relations internationales repose essentiellement sur une vision géopolitique d'équilibre des puissances et de défense des intérêts de la souveraineté chinoise, ou s'il laisse une place aujourd'hui à la participation à un ordre régional et mondial, un système international intégré. Ces interrogations, au fond, prennent leur source dans l'histoire chinoise du 19e siècle. Donc, comme toujours, quand il s'agit de questions chinoises, quand nous nous interrogeons sur le présent, nous faisons remonter, en le sachant ou sans le savoir, de grandes questions du passé. Cela dit, la question de la puissance chinoise est évidemment redevenue d'actualité au cours des 20 dernières années en raison du redressement extraordinaire qu'a opéré la Chine après 1976, après la mort du fondateur de la République populaire, Mao Tse-tung, et avec le long règne de son successeur, non pas désigné, mais de celui qui avait capté la succession et réorienté le régime chinois, Deng Xiaoping, et avec la transition engagée après Deng Xiaoping. C'est une période qui succède à une ère de chaos du grand bond à la révolution culturelle, à une ère aussi de contradictions immenses dans la stratégie et dans la politique étrangère chinoise. Eussions-nous examiné cette problématique en 1976, l'année de la mort de Mao, nous n'aurions eu aucun doute sur la nature revendicatrice par rapport à l'ordre international du système communiste chinois et de la République populaire. Nous n'aurions eu aucun doute sur la nature contestataire non seulement par rapport à la superpuissance américaine, mais contestataire depuis pratiquement 1960 à l'intérieur du camp socialiste vis-à-vis de l'Union soviétique, contestant l'hégémonie soviétique sur le camp socialiste, contestataire en termes de développement et de politique pour le tiers-monde, contestataire aussi sur des domaines aussi vastes que la démographie et le contrôle des naissances ou les influences culturelles et la pénétration culturelle étrangère, occidentale. Nous aurions pu multiplier les exemples de défis, d'insolence parfois, d'action en sous-main de la Chine dans son environnement régional, d'aventures parfois, comme pour n'en citer qu'une parmi d'autres, ce qu'a été le soutien de la Chine au régime Khmer Rouge au lendemain, à vrai dire, de la mort de Mao. Nous aurions bien entendu conclu que la nature même du régime chinois s'était identifiée à une forme de contestation et des revendications par rapport à l'ordre international. Mais nous aurions aussi, d'un autre côté, vu sans trop de difficultés que cette contestation était souvent plus verbale, idéologique, abstraite que concrète, appuyée sur des moyens d'action considérables. Nous aurions fait très vite le tri entre le discours de l'époque maoïste sur les amis de la Chine, sur les partenaires révolutionnaires internationaux, et nous serions très vite arrivés à la conclusion qu'à côté de cette idéologie, Mao lui-même avait entretenu, préservé un immense pragmatisme sur le plan international, sachant limiter ses interventions et son champ d'action dans le monde, sachant composer quand il le fallait avec les puissances étrangères, évitant par exemple à au moins deux reprises la confrontation directe avec les États-Unis, notamment pendant toute l'époque de la guerre du Vietnam, se limitant à une confrontation indirecte, posant des limites à l'escalade et à l'affrontement. Nous aurions constaté qu'en pratique, la Chine n'avait mené que des conflits extraordinairement limités, conflits avec l'Inde de quelques semaines sur les hauteurs de l'Himalaya, conflits avec le Vietnam, cela après la mort de Mao, mais peu de temps après, en 1978-1979, de quelques semaines et conclu par un retrait rapide. Nous aurions constaté qu'alors que la réunification de Taïwan était depuis 1949 un objectif patriotique essentiel, en pratique une sorte de drôle de paix ou de drôle de guerre, comme on voudra, s'était instauré dans le détroit et que Mao lui-même, après les grands propos tenus en 1958-1960, avait fait charger les obus dirigés contre les îles détenues par Taïwan de tracts de propagande et non pas de poudre ou d'explosifs. Nous aurions donc été obligés de zigzaguer entre la vision idéologique d'une Chine revendicatrice et la réelle politique d'une Chine qui était capable, par exemple, de chasser de son ambassade l'ambassadeur du régime Allende, du gouvernement Allende, au lendemain du coup d'État chilien, pour accueillir celui du général Pinochet, tout simplement parce que le Chili était un grand producteur de cuivre et que la Chine était intéressée par le cuivre et par les relations avec le régime chilien, pour prendre un exemple parmi d'autres. Nous aurions donc conclu, ou nous aurions donc adopté une problématique absolument inverse de celle que nous découvrons aujourd'hui. Aujourd'hui, en effet, la puissance chinoise, petit à petit, s'ébauche à partir d'une ligne de force essentiellement économique. Nous venons de traverser presque un quart de siècle de croissance très forte en Chine, une croissance dont on discutera à l'infini, et j'y reviendrai tout à l'heure quant aux statistiques, mais qui se situe probablement au-dessus de 9% par an pour l'ensemble de cette période, et à une échelle tout de même très large, à l'échelle d'un continent. Nous venons de traverser une période où la Chine, grâce à une politique qui allie l'ouverture aux investissements étrangers, la réforme intérieure, les concessions et les statuts spéciaux permettant de panacher une économie socialiste d'État et une économie capitaliste largement importée avant d'être suscitée en Chine même, où grâce à ce compromis, la Chine est devenue, non pas redevenue, mais devenue pour la première fois un des grands acteurs du commerce international. Elle n'est pas loin d'égaler aujourd'hui la France en termes de commerce extérieur, alors que si nous avions regardé la question il y a seulement 5 ans, elle arrivait au niveau de l'Espagne, et si nous avions regardé la question il y a seulement 10 ans, le commerce extérieur chinois était inférieur à celui de Taïwan, une île de 21 milliards d'habitants, et inférieur aussi à celui de la Corée du Sud. Ce renouveau, ce redressement sont évidemment la base de l'affirmation de la puissance chinoise. En même temps, nous y reviendrons, l'orientation qu'a prise l'économie et la société chinoise pendant cette phase de réforme et d'ouverture détermine profondément le choix de la puissance, l'orientation que prend la puissance. On peut se demander aujourd'hui, ce sera une des questions auxquelles j'essaierai de répondre, si la réponse à l'orientation de la question chinoise n'est pas tout simplement dans les liens qui se sont tissés à travers l'essor économique avec le monde extérieur. La Chine, de l'époque du président Mao, était libre d'invectiver, libre de changer de fusil d'épaule, libre de se retirer, de se monter sur l'Aventin, et libre d'actions parfois révolutionnaires ou favorables à la révolution. La Chine des héritiers de Deng Xiaoping actuel est enserré dans un corset de relations économiques internationales telles qu'il lui est extrêmement difficile, probablement, de rompre avec ses liens, de prendre des risques géopolitiques qui entraîneraient une modification d'équilibre économique. C'est pourquoi, pour répondre à la question sur la revendication ou l'intégration, il faudra répondre d'abord à la question sur la nature de la puissance, sur la nature de l'essor économique chinois et sur ce qu'il a entraîné. Ce n'est pourtant pas le seul développement de ce dernier quart de siècle du point de vue de la puissance, puisque on peut observer d'autres événements, d'autres tendances extrêmement fortes. La première est celle de l'acquisition de moyens militaires sans précédent pour la Chine, en augmentation constante, régulière, depuis au minimum 1979, c'est-à-dire précisément l'année de l'incursion et du conflit sino-vietnamien, confirmée après les événements de Tiananmen de 1989, amplifiée probablement encore depuis 1996 et la crise des missiles dans le détroit de Taïwan, c'est-à-dire cet épisode de manœuvre et d'intimidation autour de Taïwan qui n'a pas immédiatement profité à la Chine en raison de la réponse américaine, mais qui a probablement déterminé une forme d'escalade dans l'acquisition de moyens militaires de la part de la Chine, mais aussi de la part de certains de ses voisins ou de la part de l'action américaine dans la région Asie-Pacifique. Cette montée militaire est évidemment un des facteurs qui ont entraîné toutes sortes d'analyses sur l'hypothèse d'une menace chinoise, d'un danger stratégique renouvelé, et il faudra bien sûr essayer de jauger de quel poids ce facteur militaire pèse aujourd'hui sur la scène internationale et comment peut-il orienter l'affirmation de la puissance chinoise. Cette évolution n'est pas la seule non plus sur les géopolitiques, sur la scène géopolitique. On a d'autres évolutions qui ne vont pas forcément dans le même sens, qui sont plus fines, plus délicates à saisir, à analyser et à résumer pour vous aujourd'hui, mais qui sont tout aussi intéressantes, qui tiennent à la diplomatie chinoise. Si je résume ce que fut la situation de la Chine par rapport à ses voisins du début des années 60 à la fin des années 70, très schématiquement, on a une période supérieure à celle d'une décennie, pendant laquelle la Chine a été en conflit larvé, en querelle, d'une manière ou d'une autre, avec la quasi-totalité de ses voisins régionaux. On n'avait pas encore fait la paix avec le Japon, ce sera chose faite au début des années 70, et ça a été un élément précurseur de la réintégration de la Chine sur le plan international, mais on ne l'avait pas fait pendant les années 60. On était toujours en but au containment, à la stratégie d'endiguement américaine en Asie, autour de la Chine, par exemple à Taïwan. On avait déjà rompu avec l'Union soviétique, chose faite à peu près intégralement en 1963, avec quelques contacts mineurs au tout début de la révolution culturelle. Et on était entré dans un vaste conflit qui était à la fois idéologique avec l'Union soviétique, mais aussi plus vulgairement territorial, et qui entraînait des incidents, qui a entraîné en 1969 la menace d'une action militaire nucléaire soviétique contre le nucléaire chinois, une action préemptive, pour parler le vocabulaire d'aujourd'hui, que les États-Unis d'alors ont refusé et qui a été la base du rapprochement stratégique ultérieur des États-Unis avec la Chine. Vous voyez comment le monde peut changer et comment les positions peuvent s'échanger d'une décennie à l'autre. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis qui parlent d'action préemptive contre les armes de destruction massive. La Chine était bien entendu en conflit avec les régimes indochinois d'alors, avant la victoire du Vietnam du Nord sur l'ensemble du territoire vietnamien et plus largement à travers l'Indochine. Bref, il n'y avait pratiquement pas de point d'accord ou de rencontre entre la Chine et la communauté internationale. De la réintégration de la Chine à l'ONU à aujourd'hui, la Chine est pratiquement rentrée dans l'ensemble des arènes, des forums internationaux, des organisations multilatérales. Elle y a pris une place importante et petit à petit, elle s'est mise à en appliquer certaines règles ou à en jouer au moins le jeu. Ce fut le cas de l'ONU donc et des organisations rattachées à l'ONU. Ce fut le cas des organisations financières et économiques internationales, du FMI à la Banque mondiale, à la Banque asiatique de développement et bien d'autres à la fin des années 70. Ce fut le cas au milieu des années 90 pour les organisations régionales naissantes en Asie, 93 pour l'organisme de coopération économique en Asie-Pacifique, qu'on appelle plus communément l'APEC, à partir de sa dénomination en langue anglaise, et qui regroupe pratiquement les chefs d'État de l'ensemble de l'Asie-Pacifique et au-delà de son pourtour. On pourrait presque dire que l'APEC regroupe l'ensemble des économies mondiales importantes, des pays mondiaux importants sur le plan économique ou politique, sauf l'Europe. On pourrait dire que l'APEC, c'est le monde moins l'Europe, si on voulait aujourd'hui simplifier. On a vu la Chine régler la plupart de ses conflits frontaliers un par un avec ses voisins, enterrer la hache de guerre, supprimer donc les causes d'irritants qui pouvaient exister, notamment sur la quasi-totalité de sa frontière terrestre. On peut dire que c'est aujourd'hui chose faite sur la totalité de sa frontière terrestre, puisque même avec le Vietnam, qui était le dernier pays sur lequel il y avait un conflit non seulement maritime mais terrestre, un accord a été trouvé à la fin de l'année dernière, un accord qui est d'ailleurs assez favorable à la Chine et pour lequel le Vietnam a dû faire des concessions, subsistait à la fin des années 90 et au début de notre millénaire, subsistait curieusement le conflit frontalier avec l'Inde, qui, en dépit du réchauffement et de la normalisation des relations entre Pékin et New Delhi, n'est toujours pas réglé, fait toujours l'objet de laborieuses tractations. Là, on est encore dans le modèle ancien de défiance mutuelle et, je dirais, d'entretien à petit feu des irritants, faute de mieux. Subsistait surtout, ou plutôt était réapparu, un grand conflit maritime potentiel sur la mer de Chine du Sud, un concept géographique vaste, pratiquement invasif, puisque la mer de Chine du Sud est le territoire que la Chine s'adjuge, vient lécher pratiquement les frontières de des Philippines, du Vietnam, de l'Indonésie, en fait se heurte aux revendications ou à la possession de la quasi-totalité des États riverains de la mer de Chine du Sud. Donc ça, c'est un problème important, auquel on pourrait ajouter les conflits avec le Japon sur les îles, également les îles Senkaku ou Diaoyutai, suivant qu'on adopte leur nom chinois ou japonais. Là, je viens de citer les exceptions et les zones potentielles d'affrontement actuelles, mais il ne faut pas se cacher que les années 90 ont été plutôt une décennie d'accommodement, d'arrangement, d'atténuation, de disparition même de la plupart de ces conflits. Accommodement nécessairement donc avec des normes internationales, acceptation par la négociation de normes internationales, mais sur les frontières, cela a toujours été, selon la thèse chinoise, des négociations dites bilatérales, de pays à pays, et non pas le recours à un arbitrage internationale, par exemple à une cour de justice ou à une commission internationale désignée, comme c'est parfois le cas ailleurs. Cela a toujours été des arrangements pragmatiques, et ceci est important à noter. Pourtant, l'acceptation par la Chine de normes internationales et la limitation petit à petit de la liberté d'action qu'elle s'était donnée sont manifestes aussi dans la deuxième moitié des années 90, pratiquement dans les années où Deng Xiaoping est mourant, et plus rapidement encore après 1997, quand Jiang Zemin, l'actuel leader, je dis l'actuel parce qu'il n'a passé la main pour l'instant qu'à moitié, et probablement plus en apparence qu'en réalité, au 16e congrès qui vient d'avoir lieu en novembre 2002. À partir du moment donc où Jiang Zemin a recueilli la succession de Deng Xiaoping en 1995, on voit la Chine adopter un certain nombre d'accords, ratifier un certain nombre de traités de désarmement pour lesquels la communauté internationale, les États-Unis en particulier, la pressaient depuis de nombreuses années. Conventions sur les armes chimiques et bactériologiques, respect des normes sur le transfert des missiles balistiques, sinon adhésion formelle à ces mêmes normes, qui n'est pas encore réalisée, c'était un point extraordinairement important, interruption des essais dans l'atmosphère, des essais nucléaires dans l'atmosphère, puis adhésion de la Chine au traité d'interdiction des essais nucléaires en général et ratification d'ailleurs du traité de non-prolifération, tout ceci sont des évolutions qui sont des évolutions des 7 dernières années et qui témoignent évidemment d'une mutation chinoise importante. Et puis, au cours des 3 dernières années, et à l'issue d'un interminable feuilleton, nous voyons la Chine adhérer à la dernière enceinte ou ensemble de conventions internationales dont elle ne faisait pas partie, c'est-à-dire à l'OMC, à l'Organisation mondiale du commerce qui succède au GATT depuis 1993. 13 ans de négociations, donc, mais 3 ans de course au finish pour conclure en 2001 par l'adhésion. Là, nous retournons sur l'économique, mais c'est peut-être l'adhésion la plus importante de la dernière décennie, parce que l'adhésion à l'OMC entraîne non seulement l'acceptation d'un certain nombre de normes internationales dans le domaine économique, de normes, de règlements, d'application de la légalité et de limitation du pouvoir arbitraire sous l'angle économique, mais surtout parce que l'OMC est en réalité un système d'arbitrage permanent des conflits, de recours international qui implique non seulement que la Chine adhère à des normes en théorie, mais que l'ensemble des partenaires de la Chine pourront se prévaloir de cette adhésion pour, en pratique, pousser la Chine à respecter telle ou telle disposition de l'accord. C'est un événement sans précédent parce qu'on a vu à cette occasion la Chine faire des concessions économiques considérables qu'elle n'avait absolument pas envisagées ou fait mine d'envisager au début de la négociation, tant elle semblait attachée de prix à l'entrée à l'OMC. Et toute une école de pensée aujourd'hui estime qu'à travers l'adhésion à l'OMC, s'est joué le passage d'une Chine, disons pour parler en termes français ou européens, souverainiste, d'une Chine attachée avant tout à la défense de son indépendance, de sa souveraineté et de ses marges de manœuvre, une Chine ne croyant qu'à l'affrontement par la puissance, à la lutte par la force sur le plan international, se serait joué le passage donc de cette Chine-là à une Chine acceptant les règles du jeu économique sur le plan international, acceptant les liens de dépendance qui apparaissent aussi à travers la multiplication des relations croisées qu'entraîne le commerce internationale et ses prolongements dans le domaine des services ou dans le domaine des investissements. L'OMC est parfois vue aujourd'hui en Chine même comme une sorte d'apprentissage du système des relations internationales, non plus une adhésion formelle et pas nécessairement suivie d'effet, mais une adhésion qui fait boule de neige, qui entraîne un certain nombre de conséquences à travers le système et qui même, pour les optimistes, pourrait contaminer d'autres domaines de l'économie ou d'autres domaines de la société ou d'autres domaines du droit en Chine. Manque dans ce tableau l'évolution contrastée sur les droits de l'homme, qui est peut-être fort éloignée de la problématique de la puissance, mais qui pourtant en fait partie, pour une raison très simple, l'hostilité du régime chinois aux normes internationales sur les droits de l'homme et surtout à l'intrusivité, à l'intrusion, à l'intervention dans les affaires intérieures que les normes sur les droits de l'homme permettent, tenait au fait que le régime chinois voulait absolument préserver sa liberté d'action, sa marge de manœuvre, qu'il avait absolument besoin de préserver son autorité politique inébranlable. C'est peut-être le fondement le plus solide, d'ailleurs, de la renaissance de l'État chinois et du nationalisme chinois, que cette autorité sur le plan intérieur. Ici, bien sûr, nous entrons dans une zone grise où on a vu la Chine ratifier, signer plus exactement, mais pas nécessairement ratifier les conventions des Nations Unies sur les droits de l'homme, celles plus proprement politiques et celles qui portent sur les droits civils, sociaux, etc., qui est un champ d'action plus large. Nous avons vu la Chine accepter de rentrer dans un certain nombre de dialogues internationaux menés en particulier avec l'Union européenne, mais également avec les pays de l'Union européenne, mais également avec les États-Unis et avec d'autres, sur l'application des droits de l'homme et du droit. Nous voyons la Chine de temps en temps céder à des pressions et libérer des détenus. Ça a été le cas encore récemment, avant le voyage du président Jiang Zemin aux États-Unis pour une nonne tibétaine qui était devenue une cause célèbre et qui est sortie en piteux état, il est vrai, de la prison où elle était depuis près d'une décennie. C'est le cas de Xu Wenli, tout récemment, qui est un des plus célèbres dissidents chinois depuis le printemps de Pékin. Et pourtant, c'est probablement dans ce domaine qu'on peut estimer internationalement que la Chine n'adhère que très formellement et du bout des lèvres à des normes internationales et qu'elle s'emploie en pratique à en vider le contenu en ce qui concerne l'application. Elle arrête bien plus de gens qu'elle n'en libère schématiquement. Elle n'a absolument pas renoncé au traitement autoritaire de problèmes de liberté de pensée, de religion et surtout d'organisation indépendante, quelle qu'elle soit, sur le territoire chinois. Est-ce un talon d'Achille ? Est-ce, au contraire, une des sources de la puissance et de la cohésion de l'État chinois et de son succès économique ? C'est une très, très grande question, car nous venons, depuis 1997, de traverser une période où l'ensemble des pays d'Asie qui s'étaient libéralisés sur le plan politique, qui s'étaient également ouverts sur le plan économique et financier, qui étaient en pleine mutation, en pleine transition vers des systèmes d'économie de marché, et je parle là aussi bien du Japon que de la Thaïlande, de la Malaisie ou de l'Indonésie, ont été pratiquement punis, ont été pratiquement frappés par la crise financière de 1997-98. Il faut, hélas, méditer les avantages de l'autoritarisme, les avantages de l'isolement partiel du système chinois, qui font que seuls en Asie, ils ont maintenu leur monnaie, que seuls en Asie, ils ont maintenu leur croissance économique à un niveau désormais inégalé par ses voisins. Vu de Chine, la problématique de la cohésion et de l'indépendance nationale en faveur du développement économique est pratiquement concurrente et une véritable réponse à la problématique, disons, de l'homogénéisation du modèle international, en particulier en ce qui concerne les libertés intérieures ou la liberté de circulation. C'est là un terrain beaucoup plus délicat. Le problème est de savoir jusqu'où va cette puissance aujourd'hui et sur quoi elle est fondée. Et je voudrais dire que je suis à cet égard parfaitement normand et devenu parfaitement prudent, étant donné que vous avez, en ce qui concerne la réalité même de l'essor économique chinois aujourd'hui, des thèses parfaitement opposées qui se font jour simultanément. Première thèse, qui est certainement celle qui est la plus répandue en France en particulier, parce qu'elle est abondamment propagée par les médias, celle d'un essor économique irrésistible qui vide pratiquement l'eau du bain pour les voisins de la Chine. Les investissements étrangers quittent l'Asie du Sud-Est et l'ensemble de la région, se polarisent vers la Chine, qui est la première destination mondiale d'investissement direct industriel. Cette thèse explique en gros que le système communiste est un système désormais de façade ou de sommet, ou qu'il préserve simplement des piliers politiques du système, mais qu'en profondeur, la Chine a profondément muté vers une économie privée ou quasi privée, vers un système de marché, vers une compétitivité très grande grâce à la mobilité de la main-d'œuvre, au passage de la main-d'œuvre d'un secteur à un autre, en particulier l'immigration constante depuis les campagnes. Indiscutablement, la Chine est devenue une grande puissance exportatrice mondiale. Elle est même aujourd'hui, sur le plan international, source de déflation, puisque depuis 1997-1998, alors que la monnaie chinoise n'a pas bougé, les prix baissent constamment en Chine. Il y a des interrogations, j'y reviendrai avec la seconde thèse, mais un effet international indiscutable, c'est que la Chine est une source d'approvisionnement à bon marché de plus en plus importante pour le reste du monde. Et d'abord pour l'économie américaine, à laquelle elle permet la performance également d'une longue croissance sans inflation grâce à des importations dont le coût baisse tous les ans. Cette thèse optimiste suppose aussi que, paradoxalement, que le système autoritaire continue. Le système autoritaire persévère parce que le système autoritaire chinois est bien entendu le cadre général qui permet à cette économie de marché, à ces mouvements de population et à ces investissements étrangers de se développer. Les investisseurs étrangers en particulier viennent en Chine parce qu'ils y trouvent la stabilité politique qu'ils ne trouvent plus en Indonésie. Donc, si vous voulez, les capitalistes votent avec leurs pieds pour le système autoritaire chinois. Selon cette thèse, l'avantage comparatif chinois est maintenu grâce à un État fort, et pour de longues années encore, cette croissance se poursuivra sans qu'on puisse envisager la nécessité d'une mutation vers un système politico-légal différent. C'est la thèse de l'essor de la Chine à conditions politiques, grosso modo, inchangées. Et c'est celle aussi qui informe celle de nos diplomaties, je parle des Européens, qui veulent traiter avec la Chine telle qu'elle est et oublier un petit peu ce qu'elle devrait être, si vous voulez, qui mettent l'accent sur une diplomatie d'intérêt, notamment de prise de pied sur le marché chinois. La thèse inverse, c'est la thèse peu développée en France et assez peu développée en Europe, extrêmement répandue aux États-Unis et parfois aussi chez certains voisins asiatiques de la Chine, c'est la thèse de la fragilité extraordinaire de cette croissance chinoise. Fragilité d'abord des chiffres eux-mêmes. On est dans un système léniniste, dans un système de propagande, où l'ensemble des chiffres statistiques sont gonflés de la base au sommet. Certains mettent en cause, par conséquent, les chiffres mêmes de la croissance chinoise. Et c'est vrai qu'il y a de quoi s'interroger quand on observe que depuis 1997-98, on a 8% de croissance, bon an, mal an, avec bien moins d'augmentation de la production énergétique, avec un emploi qui pratiquement stagne, qui est un des grands problèmes d'ailleurs, que la Chine n'est pratiquement plus créatrice d'emplois et par conséquent que tous les ans le chômage s'accroît. Et enfin, on aurait 8% de croissance avec une déflation des prix quasiment ininterrompue depuis 1997-1998. Ce sont des contradictions effectivement assez étranges qui permettent parfois de s'interroger sur la réalité des chiffres. Je ne partage pas les arguments de ceux qui pensent que la croissance économique chinoise doit être réduite, entre guillemets, de 8% à peut-être 5% ou 4% ou 3%, quand on l'entend parfois. Je crois qu'il y a des critères de vérification internationale à peu près objectifs, ceux, par exemple, du commerce extérieur, ceux de l'accumulation des réserves en devises tout à fait spectaculaires, et quelques autres critères encore qui permettent de penser qu'il y a bien croissance. Par contre, la qualité de la croissance, indiscutablement, est mauvaise. Cette croissance est en effet appuyée par trois moteurs, dont deux marchent fort et l'un ne marche plus très bien. Les deux moteurs qui marchent très fort, c'est le soutien des dépenses publiques, le soutien budgétaire, le soutien de l'État chinois lui-même à la croissance. Une stratégie colbertiste de grands travaux, d'investissement à travers tout le pays, de dépenses publiques, de soutien des industries nationales, qui aboutit depuis 1997-1998 à des déficits budgétaires publics toujours croissants. On franchit aujourd'hui largement la limite de 3% du PIB. Et quand on observe pour la Chine d'aujourd'hui quelles sont les sources de création de capitaux, d'où viennent les capitaux nouveaux en Chine, curieusement, les fameux capitaux internationaux représentent à peu près 15% de l'augmentation de la masse d'investissement disponible. Les deux tiers des nouveaux capitaux sont purement d'origine étatique et publique. Autrement dit, malgré les apparences, nous avons une Chine plus étatique, plus bureaucratique, plus collective, moins dominée par l'économie de marché qu'on ne le croit généralement. Deuxième interrogation sur la qualité de cette croissance, c'est le gouffre que représentent les entreprises d'État et l'endettement des entreprises d'État, petites et grandes, malgré les transformations de ces dernières années, un endettement qui progressivement a pesé sur les banques publiques chinoises, qui a amené l'État à créer des organismes de reprise de la dette et de reprise des actifs insolvables à travers toute l'économie. C'était une sorte de Crédit Lyonnais, d'établissement de défaisance, comme on en a connu en France pour le Crédit Lyonnais pendant un certain nombre d'années, mais à une échelle infiniment plus grande. Quand on suit cette analyse-là, quand on déroule ce fil-là, on s'aperçoit que probablement entre 30 et 50% des prêts consentis par les grandes banques publiques chinoises ne reviendront pas, sont des prêts perdus aujourd'hui, et on s'aperçoit que l'endettement chinois est probablement aujourd'hui supérieur à 50% du PIB, un chiffre beaucoup plus important que celui d'ailleurs qui est admis par les autorités chinoises, qui tourne autour de 25 ou 30% du PIB. Donc une situation financière extrêmement délicate, ce qui ne veut pas dire une situation de crise immédiate, car la clé de la stabilité chinoise, c'est la dissociation à peu près complète entre les flux financiers extérieurs avec le reste du monde, flux en dollars notamment, flux issus des investissements, des exportations, opérations financières menées par les grands acteurs étrangers, et l'économie intérieure, les finances intérieures, l'épargne intérieure, l'endettement intérieur. Si les pays asiatiques ont sombré en 1997-1998, c'est parce qu'ils avaient pour la plupart des systèmes de monnaie convertibles et une ouverture des marchés de capitaux qui faisait que l'argent pouvait s'échapper. En Chine, il n'y a pas convertibilité du yuan, de la monnaie chinoise, sur les marchés de capitaux, autrement que pour des transactions courantes ou commerciales très limitées. Et il y a un endettement qui est pratiquement entièrement en monnaie intérieure. Autrement dit, l'État est le dernier recours et l'intervenant en dernier recours. Donc vous voyez, cette deuxième école souligne des points de fragilité. Il est difficile d'estimer que ces points de fragilité vont jusqu'à permettre la prédiction d'une crise. Par contre, à la croisée des deux écoles, ce qu'on peut estimer, c'est que si la Chine ne change pas son système politico-légal, si elle continue à panacher une économie d'État en lourde perte avec des éléments de dynamisme privé et de dynamisme de source étrangère, eh bien elle devra bien tenir la barrière entre l'économie intérieure et l'économie extérieure. Elle ne pourra pas libéraliser les marchés de capitaux, elle ne pourra pas rendre sa monnaie convertible, et elle limitera du coup les bénéfices qu'elle peut attendre de l'intégration internationale. Car qui dit ouverture aux investissements financiers étrangers, qui dit convertibilité des capitaux, dit aussi possibilité d'investissements financiers massifs et non plus seulement d'investissements industriels. Le choix fait par la Chine aujourd'hui permet de préserver sa stabilité, mais ne permet pas nécessairement d'envisager que la croissance économique soit reconduite à l'infini, et en particulier à ce que la Chine dispose des capitaux nécessaires pour une mutation intérieure plus profonde. Ce à quoi nous arrivons, c'est à l'image d'une Chine qui est en réalité à la fois en très forte ascension et en très forte dépendance à l'égard du reste du monde. Il lui faut tous les ans cet apport de capitaux étrangers. Elle dépend énormément du succès de ses exportations et donc elle a besoin de maintenir des conditions de stabilité intérieure qui continuent à attirer les investisseurs industriels, lesquels réalisent la majorité des exportations chinoises, entre guillemets. La Chine, en réalité, est entrée dans un système de dépendance économique internationale. Un autre exemple peut être cité à cet appui, c'est celui de l'énergie, celui du pétrole. On s'est aperçu au cours des 10 dernières années qu'un certain nombre de pays d'Asie, naguère autosuffisants ou quasi autosuffisants, étaient de plus en plus dépendants des importations énergétiques. Et là-dedans, c'est la Chine qui est au premier rang, qui aujourd'hui est devenue une importatrice très importante, dépend par conséquent des approvisionnements en pétrole. Une des tendances géopolitiques immédiates a été de dire « mais ceci va susciter des conflits gigantesques ». Puisque, compte tenu de la tradition de la souveraineté géopolitique, de la tradition pour tenter d'acquérir des ressources, de précédents historiques comme celui du Japon d'avant-guerre d'ailleurs, on a construit une image de la Chine qui est nécessairement rentrée en conflit majeur autour de la mer de Chine, non pas pour des histoires de souveraineté, mais pour la possession de ressources pétrolières éventuelles. On a conclu pratiquement à la nécessité d'un affrontement basé sur ce problème de rareté des ressources, sur une compétition pour les ressources de pétrole. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Ce dont on s'aperçoit, c'est que, en réalité, pour la Chine comme pour tout le monde, la source de pétrole essentielle, elle est au Moyen-Orient, elle n'est pas en mer de Chine, elle n'est même pas au Kazakhstan, elle n'est même pas en Caspienne, elle n'est pas dans des accords, bien qu'il existe des accords et des compléments régionaux, et qu'au fond, la Chine, en devenant dépendante sur le plan pétrolier, est devenue un pays consommateur comme un autre, qui se pose les mêmes questions que nous nous posons, que les Japonais se posent, que les États-Unis se posent un petit peu moins parce qu'ils ont d'autres cordes à leur arc et que leur dépendance est en réalité moindre. Autrement dit, elle est devenue un pays puissamment intéressé, de par son économie intérieure, à la stabilité du Proche et du Moyen-Orient, ce qui n'était pas acquis il y a seulement une décennie. Voyez comment un exemple de croissance accompagnée de dépendance pousse la Chine, non pas vers l'affirmation d'une puissance et d'une volonté de conquête ou d'un risque d'affrontement extérieur, mais plutôt vers une réintégration de la sphère internationale et vers un comportement, je dirais, normalisé. Autre exemple que nous pourrions citer, c'est celui des relations avec Taïwan, qui est tout à fait fascinant. On vient de traverser une époque qui a duré une décennie, qui a été une tentation de la part de la Chine d'affrontements assez rapides sur la question de Taïwan. gesticulations militaires, déclarations sur les cas où la force pourrait être utilisée, parfois affirmation de la nécessité de résoudre la question de Taïwan dans un horizon temporel limité, crise des missiles que j'ai déjà citée en mars 1996, on a pu penser qu'un des éléments essentiels de la stratégie chinoise serait la pression sur Taïwan et la réintégration de gré ou de force de Taïwan. D'ailleurs, au milieu des années 90, beaucoup d'éléments de la diplomatie chinoise semblaient dirigés avant tout vers cet objectif. Nous sommes maintenant presque une décennie plus tard. La question de Taïwan ne s'est pas arrangée à Taïwan même, puisque l'affirmation d'une démocratie taïwanaise a permis l'arrivée au pouvoir d'éléments qui sont probablement plus hostiles encore que n'était la vieille garde du Kuomintang à toute forme de rattachement à la Chine. L'hostilité, je dirais, de société, ça n'est plus une hostilité seulement politique, ça n'est plus la conséquence d'une rivalité historique, mais une rivalité, un conflit qui porte sur l'identité même. Seulement pendant ce temps, les liens économiques entre Taïwan et le continent se sont si fort développés, les investissements taïwanais ont pris une place prépondérante, les voyages sont devenus extraordinairement nombreux, l'imbrication des deux économies est telle qu'on voit la Chine aujourd'hui, et ce depuis un peu moins de 2 ans, mais de façon assez nette, commencer à modifier sa stratégie même vis-à-vis de Taïwan. Quelques éléments, on a la modification apportée au principe d'une seule Chine, qui est un principe pourtant qui a été martelé sur le plan international, sur à peu près toutes les scènes et sur tous les podiums, mais qui aujourd'hui est réinterprété pour signifier simplement que la Chine continentale et Taïwan et les petites îles qui s'y rattachent font partie de la Chine, mais on ne dit plus de la République populaire de Chine, on ne met plus en avant les réalités constitutionnelles, ce qui constitue une sorte de pas de côté par rapport à la question de la légitimité des régimes, et c'est une concession. On voit dans les semaines qui viennent de se passer pendant la fin de l'année et le début de l'année 2003, la Chine accepter de discuter directement avec Taïwan de questions concernant l'OMC, précisément. C'est la voie vers la levée des interdictions à Taïwan sur le commerce et sur les importations chinoises à Taïwan, une des interdictions qui reste très forte. La Chine a évidemment tout intérêt économique à voir ces interdictions levées, mais parler devant l'OMC ou à l'OMC avec Taïwan revient à admettre, pour une fois, l'existence d'une forme d'internationalisation de la situation entre Chine et Taïwan. Le mot d'internationalisation ne sera jamais prononcé. On mettra de côté ces questions pour les traiter plus tard, mais c'est tout de même une forme d'accommodement pragmatique. Je vais conclure, car 50 minutes, ça passe très vite en votre compagnie, et j'ai conscience que j'ai fait un tour d'horizon à la fois trop large et à trous, que vous pourrez peut-être m'aider à compléter par des questions. La grande question, bien entendu, c'est jusqu'où cette phase d'accommodement, d'intégration et de compromis, et quand ou comment pourraient se réaffirmer des points plus durs dans la stratégie chinoise. C'est une immense question. On peut y fournir non pas des réponses, mais quelques éléments intuitifs. Il est très très clair que la Chine est aujourd'hui embarquée dans une stratégie d'influence régionale à l'échelle de l'ensemble de l'Asie, une influence qui l'amène à des liens de plus en plus nombreux avec les pays de l'ASEAN, là aussi parfois avec des concessions, notamment à la promesse d'un système de libre-échange qui bénéficierait principalement aux économies de l'ASEAN et qui leur donnerait accès au marché chinois de façon plus facile. Il est très très clair que la Chine a aujourd'hui une forme de rivalité politique contenue avec le Japon, contenue seulement, car on exagère beaucoup en Europe, le déclin du Japon, avoir beaucoup exagéré dans l'autre sens son ascension. La réalité de l'économie japonaise, c'est qu'elle représente encore 60% de l'économie de l'Asie dans son ensemble. La réalité de la force militaire japonaise, c'est qu'elle est la troisième ou la quatrième armée mondiale et qu'elle est loin en avant des possibilités de projection de l'armée chinoise actuelle, à l'exception bien sûr du nucléaire et du balistique que les Japonais se sont interdits. Mais cette rivalité, néanmoins, existe. Au-delà, il est extraordinairement difficile de prévoir dans quelle mesure la stratégie chinoise de patience, d'acquisition des moyens économiques, sera rattrapée par l'évolution de société, par l'évolution culturelle interne et finalement par une évolution politique, ou bien si on aura une sorte de rebond d'un système léniniste autoritaire, d'un système qui s'appuie aujourd'hui sur le nationalisme et sur les revendications nationalistes, lesquelles sont loin d'être éteintes dans la société chinoise, et si on pourrait, dans un deuxième temps, voir une Chine exercer avec plus d'arrogance ses droits à la puissance. Un des éléments qui permettent de penser que ce risque existe, c'est l'obsession que manifestent non seulement les dirigeants chinois, mais une bonne partie des élites et de la population pour à la fois les relations et la compétition avec les États-Unis. Les États-Unis fascinent les dirigeants et le public chinois plus qu'ils ne fascinent tout autre pays en Asie. C'est le pays de destination pour les étudiants, c'est le pays de destination pour les touristes, c'est le pays contre lequel on proteste et qu'on prend pour cible, mais c'est le pays qu'on admire en même temps, c'est le pays par rapport auquel on se fixe des objectifs de puissance, et pour la première fois d'ailleurs ces dernières années, on peut voir des objectifs intérieurs chinois exprimés, formulés en écho, en imitation de développement intérieur américain du XXe siècle. Les grands projets, la Tennessee Valley Authority, les grands épisodes du New Deal, sont des choses qui ont été la politique de développement de l'Ouest américain. Vous avez aujourd'hui une politique de développement de l'Ouest chinois. La législation antitrust américaine, par exemple le fractionnement de l'industrie pétrolière, naguère, puis le fractionnement des Bell, des compagnies téléphoniques américaines à une époque plus récente. Vous avez un phénomène analogue en Chine, de suppression des monopoles nationaux et de création de compagnies régionales. Le phénomène de miroir est tel qu'une réalité au moins est difficile à nier, c'est qu'une majorité des Chinois, pacifiques pourtant, rêvent de voir leur pays porté au premier rang mondial. Ce rêve est certainement irréaliste dans des conditions actuelles, mais il existe bel et bien. Je m'arrête là-dessus, puisqu'il ne faut pas déborder sur ce que vous m'aviez dit plus longtemps, et je vous laisse la parole.
La Chine se sent-elle menacée par les récentes évolutions en Corée du Nord, notamment par donc, l'aveu par la Corée du Nord qu'elle possède de l'arme atomique et le fait que la Corée du Nord dispose de vecteurs de cette même arme atomique, et quelles peuvent être les réactions de la Chine, manifester ce souci ou cette inquiétude, ou bien laisser les choses courir et laisser aux Américains le soin de traiter la question. Merci.
La Chine est certainement embarrassée. Elle est embarrassée, je crois, non pas par les efforts patients de la Corée du Nord pour acquérir telle ou telle catégorie d'armes, mais par la manifestation brutale, publique et cynique, et surtout par les risques qu'entraînerait une véritable déclaration de franchissement du seuil nucléaire par les dirigeants nord-coréens. C'est d'ailleurs sur ce terrain que Poutine et les dirigeants chinois se sont rencontrés récemment par une déclaration commune qui est moins, comme on l'a cru, un acquiescement à une politique internationale de désarmement de la Corée du Nord, notamment par la force, qu'un avertissement à la Corée du Nord de ne pas franchir le seuil déclaratif, si vous voulez. Mais une fois qu'on a dit ça, on est bien obligé de se rappeler que la Chine est une des deux sources de technologie nucléaire et d'aide de savoir-faire nucléaire de la Corée du Nord jusqu'au début des années 90, que le premier étage de développement des missiles balistiques coréens a été fourni par les SCUD, modifiés eux-mêmes par la Chine et exportés, que au moment de la guerre Iran-Irak du début des années 90, la Corée du Nord était l'exportatrice théorique de beaucoup de missiles Silkworm, qui sont des précurseurs de nos exocètes et qui ont servi dans le combat entre Iraniens et Irakiens. Autrement dit, les Chinois connaissent très bien la Corée du Nord parce que la Corée du Nord a longtemps été une sorte d'homme de paille, si vous voulez, et d'allié mineur, mais encouragé, assisté. Les Chinois n'ont pas de relation d'amitié particulière pour M. Kim Jong-il, pas plus qu'il en avait véritablement avec Kim Il-sung, même s'il y avait le souvenir de la guerre de Corée et des habitudes prises entre les dirigeants militaires chinois, au moins, et les dirigeants nord-coréens. Mais la Corée du Nord, comme pour toute réalité stratégique, la première question que posent les Chinois, c'est que se passerait-il s'il n'y avait plus la Corée du Nord ? Et là, les ennuis commencent. Quelle que soit l'amélioration des relations chinoises avec la Corée du Sud, quelle que soit l'intensification des liens commerciaux autour de la Corée du Nord, quelle que soit l'insignifiance économique de la Corée du Nord aujourd'hui, c'est un État tampon. C'est un État dont le modèle est socialiste. C'est un État qui fixe des troupes américaines et qui constitue un élément d'irritation considérable pour les États-Unis et pour le Japon, qui d'ailleurs permet à la Chine de temps en temps de promettre de les aider. C'est un autre aspect. Les conflits permettent à la Chine de se positionner sous un angle positif et actuellement, entre la lutte antiterroriste, l'Afghanistan, peut-être l'Irak et l'acquiescement aux Nations Unies. Vous observerez d'ailleurs que la Chine n'a pratiquement pas fait de déclaration au Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'Irak au cours de la dernière période. Elle est en fait très coopérative, elle est passivement coopérative, mais elle est coopérative. La Corée du Nord aussi peut être un terrain pour désamorcer aux États-Unis le camp de ceux qui voulaient une forme de compétition stratégique et une forme, en gros, d'escalade de la présence militaire américaine pour contenir la Chine. Je crois donc, contrairement à un certain nombre d'observateurs, qu'il ne faut pas attendre trop de la Chine en matière d'efforts ou de pression pour résoudre le problème de l'acquisition d'armes de destruction massive par la Corée du Nord. Certes, les choses iraient mieux pour eux si cette acquisition était moins visible, mais je n'irai même pas jusqu'à dire que l'acquisition d'une partie de ces moyens va contre les intérêts chinois. Cela élargit la sphère des problèmes que doit gérer l'Occident, cela diminue les pressions stratégiques et la perception du danger chinois ou de danger que représente l'armée chinoise. Et donc, sans qu'on puisse dire que la Chine soutient la Corée du Nord comme les lèvres entourent les dents, c'était l'expression de naguère, je crois que c'est un domaine très complexe. En tous les cas, par contre, la Chine semble poser une limite à l'aide qu'elle apporte à la Corée du Nord, indiscutablement. De tous les soubresauts et gestes divers qu'a pu faire la Corée du Nord au cours des 6 derniers mois, il y en a un qui était frappant parce qu'il est le seul, à mon avis, et de l'avis de beaucoup d'observateurs, qui avait un degré de viabilité. C'était l'idée de création à la frontière chinoise d'une sorte de grande zone franche, une sorte de Hong Kong nord-coréen. Le terme avait été présenté. Ça aurait été un Hong Kong particulier, avec plus de barbelés qu'un Hong Kong, si vous voulez mon avis. Mais tout de même, fondé sur le coût voisin de zéro de la main-d'œuvre nord-coréenne, qui est aux abois, je veux dire, les nord-coréens qui s'enfuient en Chine et qui travaillent clandestinement en Mandchourie, travaillent souvent simplement pour une couchette et pour un repas. Il n'y a pas besoin de les payer, pas besoin de verser un salaire. Il suffit de leur permettre de survivre, si vous voulez. C'est une idée économiquement viable, cynique, mais économiquement viable, et à laquelle des entreprises sud-coréennes en particulier se seraient fait un plaisir de participer. Alors là, les Chinois ont mis un coup d'arrêt immédiatement à cette idée, notamment en empêchant la Corée du Nord de recruter un homme d'affaires chinois pour mener cette entreprise, un homme d'affaires expérimenté, parce qu'on manque un peu d'hommes d'affaires expérimentés en Corée du Nord. À mon sens, là, ils protègent strictement leurs intérêts économiques et matériels. Ils ne veulent pas d'une concurrence par le bas à leur porte. Ils ne veulent pas que la solution au problème nord-coréen se passe par un processus de concurrence dans les industries de main-d'œuvre et de montage par rapport à la Chine. Là, on mesure les limites de la solidarité chinoise. Mais l'intérêt géopolitique, l'intérêt stratégique dicte à la Chine une attitude extraordinairement prudente et extraordinairement préservatrice de l'avenir et de ses intérêts dans cette histoire.
Vous avez parlé de fantasme pour pouvoir dire ce qui arrivera, soit la continuation dans les conditions actuelles de la croissance, soit des difficultés énormes qui empêcheront l'équilibre de se transformer complètement. Alors, moi je pense à la Russie ou à des propos d'universitaires chinois qui nous parlent de la colonisation. 3 siècles en Europe, ça s'est mal terminé, mais ça, c'était tout de même assez positif. 3 siècles en Sibérie. Alors là, c'est le pays le plus riche du monde, où les Chinois, ils ont un reproche à faire. Il faut voir l'origine du temps à Stalingrad même, au moment de la bataille. Staline annexait les Ouïghours, c'est-à-dire le Turkestan chinois, qui est un grand pays. Et alors, ils ont dû le rendre en 1945. Mais apparemment, les Chinois n'oublient pas, les universitaires, les journaux en parlent parfois, on en parle dans les écoles. Donc, il y a une tentation, comme pour toutes les civilisations, que ce soit les Romains, que ce soit Napoléon, que ce soit, n'est-ce pas, Clausewitz disait qu'on faisait la guerre pour prolonger l'action diplomatique de la paix. Est-ce qu'ils ne sont pas aussi dans cette situation? Et alors, en cas de guerre russo-chinoise, les Chinois sont les seuls qui, depuis des millénaires, ont encore une culture militaire. On a vu ça dans les réactions quand il y avait la guerre sur l'amour, n'est-ce pas?
S'il vous plaît, monsieur.
Alors, vous voyez ma question.
Vous pouvez poser une question assez rapide, s'il vous plaît.
Oui, mais ma question est donc celle-ci. Est-ce que cette possibilité de guerre franco-russe peut exister? Et d'autre part, avec la Corée du Nord, ce que vous venez d'expliquer, ce sont des endroits faibles pour un grand pays comme la Chine. Et la Chine n'a, pour ainsi dire, pas encore de marine. Quand elle en aura une, elle pourra aller chercher le pétrole au Moyen-Orient. Alors tout
Merci.
Cela...
On va écouter la réponse de M. Godemont.
C'est le problème chino-russe qui m'intéresse.
Merci beaucoup.
Comme votre question a de multiples facettes, je répondrai à la partie sur l'Asie centrale et la Russie qui effectivement se pose. La compétition russo-anglaise en Asie centrale, russo-chinoise, pardon, c'est aussi fort que la compétition historique autour du toit du monde, autour de l'Himalaya, de l'Afghanistan en particulier, depuis le 19e siècle. Néanmoins, les données ont complètement changé. Aujourd'hui, la Chine a un problème en perspective, c'est la gestion de ses propres minorités nationales qui se trouvent en grande partie dans le Grand Ouest, dont le poids démographique s'accroît, qui retrouvent des relations par-delà les frontières avec leurs frères des États d'Asie centrale, désormais émancipés de l'ex-URSS. Et la véritable problématique que se pose la Chine, c'est d'abord de la viabilité de ces territoires de l'Est, de l'Ouest et de leur développement économique, et ensuite de l'intégration durable de ces peuples dans l'ensemble chinois. Ceci, là aussi, dicte, je crois, une attitude de prudence. L'essentiel de la diplomatie chinoise vis-à-vis de l'Asie centrale aujourd'hui, c'est la tentative, à travers un organisme qui s'appelle l'Organisation de coopération de Shanghai, qui rassemble les États d'Asie centrale, plus la Russie, plus la Chine, une tentative de créer une sorte de sainte alliance anti-subversive. C'est le noyau dur de cette organisation de coopération de Shanghai. Autrement dit, un pour tous, tous pour un, les États préservent leurs poteaux frontières, s'engagent à défendre mutuellement leur stabilité. Il y a en particulier eu des accords d'extradition. Il faut voir aujourd'hui cette préoccupation chinoise comme beaucoup plus défensive qu'agressive. Qu'à terme, il y ait des influences économiques fortes, le marché chinois et la capacité chinoise aussi d'influencer sur les économies voisines sont fortes. L'achat, la prise de position par les compagnies pétrolières chinoises dans les ressources pétrolières du Kazakhstan est tout à fait significatif. Mais, encore une fois, les perspectives de stabilisation, je crois, l'emportent sur les perspectives de bouleversement. Là où on peut se poser des questions historiques, à une échelle qui est peut-être celle de notre siècle, peut-être au-delà, c'est pour la Sibérie. Parce qu'indiscutablement, la Sibérie s'est éloignée du reste de l'ex-URSS. Elle s'est éloignée politiquement, géographiquement, démographiquement, économiquement. Il y a un courant d'immigration chinoise régulier aujourd'hui vers la Sibérie, qui est tout à fait impressionnant parce que l'équilibre de la population peut facilement changer. On peut imaginer, à l'échelle d'un siècle, que les intérêts de société, les intérêts démographiques, les intérêts économiques sibériens commencent à diverger de ceux de la Russie d'Europe. Après tout, vous avez cité Staline, c'est Staline qui avait en gros déporté les Asiatiques de Sibérie vers la Russie centrale et déporté des Européens de Russie d'Europe vers Sibérie afin de bouleverser les populations et afin d'éviter ce genre de risque. Aujourd'hui, cette séparation, cette politique de transfert de population est évidemment défaite. Là se posent en effet des interrogations. Elles existent à Moscou et pourtant Moscou aujourd'hui est par exemple le premier fournisseur d'armes chinois avec des chiffres tout à fait considérables. La Chine fait vivre pratiquement une partie de l'ancien complexe militaro-industriel soviétique. Autrement dit, quelles que soient les réticences qu'on entend parfois ou les arrière-pensées qu'on entend parfois en Russie sur l'avenir et les visées chinoises, cela n'a pas encore conduit, en tous les cas, à rompre ces accords pragmatiques, ce bénéfice pragmatique que la Russie tire aujourd'hui de l'essor de ses relations avec la Chine. Donc je crois qu'il faut éviter, si vous voulez, les prédictions trop fortes. Il faut éviter de systématiser les prédictions.
Oui, bonsoir, monsieur. Vous avez parlé des concessions qu'a dû faire la Chine pour arriver à adhérer à l'OMC. Oui. Et par ailleurs, vous avez parlé des faiblesses financières de tout le système financier chinois et qui ne fait que d'ailleurs se détériorer chaque année, comme vous l'avez dit. Or, ils ont pris des engagements à terme importants, et parmi ces engagements, dans le cadre de leur entrée à l'OMC, c'est de libéraliser tout le système financier. Et il y a là, apparemment, un engagement qui paraît difficilement tenable. Certains considèrent que s'ils les ont acceptés, c'était pour... ils estiment qu'étant entrés à l'OMC, ils pourront influencer les règles actuelles en faisant évoluer celles-ci avec l'aide de l'ensemble des pays tiers. J'aimerais avoir votre opinion sur ce point, car effectivement, il est inimaginable qu'il puisse, enfin, ça risquerait de fragiliser et de voir s'effondrer l'économie chinoise, comme ça s'est passé pour les autres économies asiatiques quand elles avaient adhéré à la globalisation financière en 1997.
C'est une question importante et technique, difficile. Quelques aperçus. En 1999, quand le Premier ministre Zhu Zhongti se rend aux États-Unis et tente de régler la question de l'OMC avec Bill Clinton, il échoue de façon spectaculaire parce que les États-Unis, et en fait le secrétaire au Trésor d'alors, William Rubin, dit à Clinton, écoutez, on peut obtenir plus, il faut qu'on obtienne une libéralisation rapide de leurs marchés financiers et de capitaux. Et ça, c'était une concession que la Chine ne pouvait pas faire, elle était trop dangereuse. Le marché des capitaux chinois est extraordinairement tentant pour les banques et les sociétés d'assurance étrangères parce que vous avez une gigantesque épargne captive qui s'investit à fond perdu avec des rendements délirément faibles, si vous voulez, qui bien entendu ne demanderait pas mieux que de s'investir dans des structures de gestion plus solides, mais ce serait une perte de contrôle complète par la puissance chinoise de son propre système d'épargne financière. Alors, c'est pour ça que les accords à l'OMC sont tout de même pas complets sur les compagnies d'assurance, par exemple. c'est des histoires de joint venture avec mélange de propriétés. Ce n'est pas un droit complet et il est retardé dans le temps. Il y a des concessions pour les banques, par exemple, avec le droit pour les banques étrangères d'opérer en Chine. Il y a en fait des délais, des étapes d'au moins 5 ans. Et surtout, on commence à observer des cas d'application amusants où, en fait, quand une banque étrangère commence à vouloir opérer en Chine, non pas opérer comme boîte aux lettres, non pas comme correspondant pour des crédits étrangers, mais opérer sur des opérations chinoises avec des capitaux chinois, que lui demande le gouvernement chinois pour opérer, d'avoir un ratio de réserve déclaré compatible avec les critères internationaux, ce qu'on appelle le ratio Cook, qui a été déterminé par la Banque des règlements internationaux, les 8% de réserve nécessaire. Et surtout, on dit aux partenaires étrangers, à la banque étrangère, mais vous voulez les détenir en Chine et en yuan. Et là, la banque étrangère est tellement persuadée que le système chinois est risqué et qu'on ne va pas miser autant d'argent contre des bénéfices d'opération que d'elle-même, elle retire sa proposition. Autrement dit, si j'élargis le propos, l'application de l'OMC va donner lieu à toutes sortes de guérillas juridiques ou réglementaires, à toutes sortes de bras de fer et de négociations. Et s'il y a bien un domaine où cette libéralisation doit en pratique progresser lentement, c'est celui de la libéralisation financière, pour lequel, indiscutablement, le risque est grand.
Vous avez parlé tout à l'heure de la faillite des entreprises d'État en Chine et de la fragilité du système financier en Chine. Alors aujourd'hui, nous savons que beaucoup d'experts concordent sur le fait que derrière la frénésie boursière de Shanghai ou de Shenzhen se cachent des sociétés presque au bord de la banqueroute. Et ma question est très simple. Est-ce que pouvez-vous nous dire quand est-ce pourrons-nous voir en Chine un système de gouvernance d'entreprise ou de système de comptabilité plus fiable? Il ne faut pas qu'on parle de d'Enron ici, mais au moins qu'on peut dire que c'est vraiment un système de compte qu'on peut avoir confiance. Alors voilà ma question. Quand est-ce pourrons-nous voir ça? Qui traduit,
dans
qui traduit
la volonté, il y a une réponse
de transparence juridique, économique et puis politique.
Il ne faut jamais poser des questions dans lesquelles la réponse est pratiquement contenue. Mais je vais quand même vous suivre. Les sociétés d'État, le marché boursier chinois, c'est en fait un très curieux puzzle. Puisque vous avez théoriquement une masse de capitaux boursiers extraordinaire. On a dit l'équivalent de 55% du PIB chinois en capitaux boursiers, c'est-à-dire plus qu'en France. À quelques détails près, la majorité des actions ne sont pas réellement émises. Enfin, elles sont théoriquement créées, mais elles ne circulent pas, elles ne sont pas mises sur le marché, elles sont détenues par l'État. Une autre partie est détenue de façon croisée par d'autres entreprises d'État. Autrement dit, quand on regarde la masse d'actions circulantes, c'est déjà beaucoup plus faible. Donc ceci pour relativiser cette bulle boursière chinoise. Mais ça relativise son importance et les articles délirants que vous pouvez lire sur l'essor du système boursier chinois, ça relativise aussi les risques. Parce qu'en réalité, la masse des capitaux et l'ampleur de la bulle sont moins grandes. Si une partie des choses sont purement fictives ou virtuelles, on n'est pas dans une véritable économie de bulle. Ensuite, évidemment, ces entreprises d'État largement qui ont mis des actions se sont fait certifier par des auditeurs internationaux. Et là, on retrouve les amis Arthur Andersen et compagnie. Moi, j'ai toujours évidemment estimé, et quelquefois des banques d'investissement fort connues sur le plan international, dont les analystes à Hong Kong émettent des recommandations extraordinairement favorables et qui, de l'autre côté, sont défenseurs des intérêts de telle ou telle entreprise d'État chinoise. Donc, il y a un conflit d'intérêts évident, difficile à nier. Le système chinois n'est pas un système d'économie libérale, c'est un système d'économie dirigée, c'est un système d'économie orientée, c'est un système dans lequel la garantie étatique ou le droit d'intervention étatique joue de façon énorme. D'ailleurs, c'est la seule raison pour laquelle les épargnants chinois continuent à déposer leur argent à la banque. Car s'ils n'avaient pas l'espèce de certitude morale qu'en définitive ils seront sauvés, on ne voit pas pourquoi ils mettraient leurs économies dans un système aussi déficient. D'ailleurs, de temps en temps, il y a des éléments de panique. Cela peut se produire. Donc, le paradoxe c'est que à l'époque actuelle, c'est pas le retrait de la puissance étatique qui est nécessaire, c'est son maintien en réalité. Un retrait serait catastrophique parce que cette économie financière n'est pas du tout mûre pour la transformation. La vraie réponse à votre question, je crois, c'est dans longtemps.
Bonsoir monsieur, je voudrais savoir quels sont les facteurs de sous-estimation ou de surestimation de la croissance chinoise, si vous les connaissez.
J'en ai cité quelques-uns. Il y a plus de facteurs de surestimation que de facteurs de sous-estimation. Un des problèmes, c'est qu'une partie de cette croissance, comme je l'ai dit, est d'origine publique. Donc ce sont des dépenses publiques, des grands projets, des projets d'infrastructure. Ces projets, ils existent dans le PIB, ils ont une valeur, mais savoir si cette valeur économique est réelle ou s'il s'agit, on peut prendre l'exemple japonais, vous avez eu d'immenses programmes de soutien de l'économie, de programmes de bétonnage et de construction de routes et de ponts et de tunnels et de travaux publics qui n'ont pas nécessairement aidé à l'essor de la richesse japonaise, au contraire. Donc il y a déjà l'origine qui pose un problème. Deuxième problème, le gonflement des stocks des entreprises d'État déficitaires. On produit mais on ne vend pas nécessairement. Ça, c'est une situation classique dans une économie socialiste. Elle existe encore en Chine. Les stocks se gonflent toujours. Par conséquent, vous avez probablement une partie de la production qui est inutile ou archaïque. Et ceci est un élément dont il faut tenir compte. Troisième élément de surestimation probable, c'est les statistiques faussées sur le plan local. Une partie des choses se passe sur le plan local et en fait l'appareil statistique chinois est assez faible, les choses remontent et d'ailleurs le bureau des statistiques de l'État ne fait pas mystère du fait qu'il redresse un peu les statistiques. Quatrième élément de surestimation vraisemblable, cette affaire de la consommation énergétique. Elle est complexe parce qu'après tout les Chinois ont le droit de faire des économies d'énergie. La Chine était à la soviétique un système dans lequel l'énergie ne coûtait rien et donc était entièrement gaspillée. La monstruosité charbonnière, de même que les conduites d'eau fuyant à travers tout le pays, dans un domaine analogue, l'électricité gaspillée, les chauffages d'immeubles, etc. On est entré dans une ère de rationalisation. Il y a aussi tellement de coulage dans la production énergétique qu'on peut estimer que si les statistiques énergétiques sont si faibles, c'est peut-être parce qu'une partie de la production énergétique est dissimulée et vendue sans être comptabilisée. Donc il faut être très très prudent là-dessus. Les autres éléments parfois cités sont plus difficiles à aborder. Il y a des éléments de sous-estimation qui sont assez amusants. Sous-estimation pendant longtemps des exportations chinoises par le gouvernement lui-même. Pourquoi ? Parce que les entreprises chinoises préféraient ne pas rapatrier une partie de leurs recettes, les étrangers aussi d'ailleurs, et sous-déclarer volontairement la valeur des exportations pour garder des capitaux à l'étranger, ou bien différer le plus longtemps possible leur déclaration. Vers 98-99, on a obligé brusquement, on a resserré les boulons, si vous voulez, et une partie du boom des exportations de ces dernières années est statistique. Un rattrapage statistique. Mais ça, bon, ça peut jouer dans un sens, ça joue dans les deux sens, ça n'est quand même pas un élément déterminant. Encore une fois, je me méfie des interprétations radicales, qu'il y ait du mensonge statistique ou du flou statistique partout, c'est évident. Que ça joue dans un seul sens est un petit peu difficile à soutenir sérieusement.
François Godemont, merci beaucoup.